Je parlerai aujourd'hui de Saint Colomban et de l'épopée des moines irlandais, pardon, de la fin du VIe siècle au début du VIIe siècle. Lorsque le pape Grégoire IV, pardon, qui devait devenir Saint Grégoire le Grand, lorsque ce pape succéda au pape Pélage II en 590, Grégoire IV, la situation dans le monde était des plus troubles, pour ne pas dire sinistres. Pélage II avait succombé lors d'une épidémie de peste. 80 fidèles étaient morts au cours d'une procession organisée par Saint Grégoire lui-même. Rome était assiégée par les Lombards, d'autant plus à craindre qu'ils étaient divisés entre catholiques, nestoriens et païens. L'exarchat de Ravenne était de plus en plus mal supporté par les Italiens, bien que les Grecs eussent chassé les Ostrogoths, mais c'était il y a 50 ans. L'Afrique, pourtant débarrassée des Vandales depuis 533, était agitée de troubles religieux. Byzance était obligée de se battre contre les Slaves, les Avars et les Perses, avec des alternances de succès et de revers. L'église de Bretagne était quasiment détruite par les Angles et les Saxons. L'Allemagne était toujours païenne. Seule l'Espagne venait de donner une grande joie à l'église avec la montée sur le trône du roi Récaret Ier, arien converti au catholicisme, qui fit de Tolède un grand foyer religieux. L'église sortait à peine de la querelle des trois chapitres dont nous avons parlé il y a quelques mois, épisode à la fois des tensions entre Orient et Occident, et des tentatives de mainmise du temporel sur le spirituel. Le royaume franc, à première vue, ne donnait pas de grandes inquiétudes. La dynastie installée par Clovis était catholique, et les armées franques étaient toujours prêtes, au moins en théorie, à donner main forte au pape et à l'empereur contre les barbares, en particulier contre les Lombards. Il fallut tout de même attendre Charlemagne et la fin du 8e siècle pour les voir définitivement battus. Mais tout n'allait pas pour le mieux dans l'église franque. Le pape Pélage II avait d'ailleurs répondu aux évêques des Gaules qui critiquaient son attitude dans l'affaire des trois chapitres. « Vous seriez peut-être beaucoup plus embarrassés de justifier vos nominations aux évêchés. » Beaucoup d'évêques en effet étaient improvisés, passés du laïcat à l'épiscopat dans la journée et retournaient vivre dans leur villa luxueuse en tournée de leur meute de chasse. Du coup, l'église perdait beaucoup de sa force spirituelle et les campagnes restaient très païennes. Le mot « païen » vient d'ailleurs du latin « paganus » qui signifie « paysan ». C'est alors qu'apparut Saint Colomban l'Irlandais, qui a vécu de 540 à 615. Contrairement à la Grande-Bretagne où l'église ne subsistait que sous forme de débris car elle avait été ravagée par les Anglais et les Saxons, l'Irlande connaissait une grande ferveur religieuse qui la faisait nommer l'île des Saints. Elle avait été évangélisée par Saint Patrick, Saint Patrick qui vécut de 385 à 461, et fait quasi unique dans l'histoire de l'Église, sans persécution, voire sans martyr, si l'on accepte un petit nombre de ses compagnons assassinés par les druides qui voyaient la puissance leur échapper. Il est d'ailleurs très symptomatique de rappeler que la mission de Saint Patrick, fils d'un fonctionnaire romain chrétien, d'où son nom de Patricius, fut précédée de six ans de retraite au monastère de Lérins, aujourd'hui Saint-Honorat au large de Cannes, et de 14 ans au service de Saint-Germain à Auxerre. Ainsi, l'Église de France fut un peu la marraine de celle d'Irlande qui lui rendit son bienfait au centuple. Saint Colomban était une nature ardente, une âme de feu. On raconte que, tourmenté par son adolescence, il alla demander conseil à une recluse qui lui aurait dit « Avec la figure et l'âme que tu as, il n'est qu'un seul parti, t'enfuir. » Toute son histoire fut donc une fuite en avant, vers l'absolu, vers Dieu. Il était partisan des mesures extrêmes, de la table rase, afin de laisser Dieu rebâtir à sa guise. « Jette-toi dans le vide, disait-il, c'est l'office des anges de te soulever et de te soutenir. » De fait, s'il provoqua bien des ressentiments, voire des haines, il suscita des attachements passionnés. Sa sainteté un peu terrifiante, fut le phare de la Gaule de la fin du VIe siècle. Il avait abandonné l'Irlande malgré un attachement qui restera toujours très vif pour l'île des Saints, poussé par l'esprit comme beaucoup de ses compatriotes. Certains s'établissaient sur des îlots battus par la mer, quelques-uns se dirigeaient vers l'Écosse, la plupart sur le continent. Il est curieux de constater que la présence irlandaise fut presque nulle en Angleterre. C'est Saint Grégoire le Grand qui enverra Saint Augustin de Cantorbéry directement de Rome en 596. Traversant la Gaule, Saint Colomban fondera un grand monastère à Luxeuil en 590. La règle en était particulièrement sévère. Au rebours de Saint Benoît qui partageait sagement la journée en prière, travail, repos et récréation, la règle de Saint Colomban ne laissait pas l'âme en repos un seul instant. Il est vrai qu'il payait lui-même abondamment de sa personne. Les Celtes se différenciaient des Latins sur plus d'un point. Les uns apparemment secondaires, comme leur costume ou la forme de leur tonsure, les autres plus sérieux, comme le calcul de la fête de Pâques. La date de Pâques qui fut l'objet de discussions passionnées dès les premiers temps de l'Église. En 190, le pape Victor, un Africain, alla jusqu'à excommunier ceux qui voulaient fêter Pâques le vendredi saint, parce que c'était le jour de la croix. Il avait fait remarquer au Saint-Père que ses fidèles étaient de bonnes mœurs, pieux et charitables, et ne se rendaient coupables d'aucun autre crime que de fêter Pâques quelques jours plus tôt. Qu'on les laisse en paix à ce sujet, disait-il, étant entendu que l'usage du plus grand nombre sera réservé à Rome. Par bonheur, il y eut toujours un désir suffisant de conciliation pour éviter toute rupture de la part de Rome, il faut le reconnaître, alors que bien des évêques de Gaule jetaient comme à plaisir de l'huile sur le feu. Dès le Xe siècle, il n'y eut plus qu'une seule manière de calculer la date de Pâques. On oublie trop souvent que ces questions ont conduit l'Église au bord de la rupture, alors que maintenant elles paraissent tout à fait naturelles. Lors des discussions semblables, Saint Colomban commençait par féliciter ironiquement les prélats d'avoir trouvé un motif pour se réunir. Il invitait ensuite chacun des participants à s'interroger sur son respect des vertus fondamentales, pauvreté, humilité, chasteté. Comme on le voit, il faisait preuve d'une personnalité, sinon d'une grande habileté. Le monastère de Luxeuil prospéra très vite, maintenant auprès du peuple des campagnes, une référence authentiquement chrétienne. Il ne tarda pas à envoyer des ramifications dans toute la France du Nord. On peut nommer pêle-mêle les abbayes de Joie, Reuil en Brie, Rebais en Seine-et-Marne, Farmouthé dans la même région, Lure, Besançon, Saint-André près d'Évreux, puis Jumèges et Noirmoutier fondés par Saint-Philibert, disciple de Saint Colomban, né dans le Gers. Puis aussi Thérouanne, fondée par Saint Omer. Comme autre disciple, il faut encore citer Saint Donat, né à Orléans, qui fut archevêque de Besançon, Saint Valéry, un Auvergnat, qui fonda une abbaye en Picardie, près de la ville qui porte son nom, Saint Riquier, dont plusieurs chapelles en Picardie dans le Nord portent encore leur mémoire, etc. etc. Les monastères féminins s'établissaient au même rythme, comme il convenait à un mouvement d'inspiration celte, civilisation qui a toujours accordé une grande importance aux femmes. La christianisation de la Gaule du Nord devenait effective. Toutefois, le caractère entier de Saint Colomban n'allait pas tarder à lui causer quelques désagréments. La reine Brunehaut, princesse gothique, vaillante, excellente dans l'administration du royaume et très pieuse, malgré un caractère des plus dominataires, fort différente de Frédégonde qui était davantage une aventurière, la reine Brunehaut donc eut une dispute avec lui au sujet des enfants de son petit-fils Thierry. Saint Colomban trouvait que la reine-mère exagérait quelque peu, voulant garder son influence sur le dit Thierry, elle éloignait sa femme à n'importe quel prix, fût-ce celui de la morale. Il refusa de bénir les enfants nés dans ces circonstances. Furieuse, Brunehaut fit exiler Saint Colomban à Besançon, puis tenta de le faire entrer en Irlande. Parvenu à Nantes, ce dernier tenta de s'embarquer, mais la mer ayant rejeté à la côte, retraversa la France jusqu'au Rhin dans une atmosphère de triomphe. Chassé définitivement, il s'enfuit le long du Rhin avec son disciple Saint-Gall, qui fonda une abbaye à Bregenz et l'autre en Suisse, près de la ville qui porte son nom. Comme on le voit, toutes ces histoires sont terriblement mouvementées. Les moines de Luxeuil avaient pendant ce temps envoyé des missions chez les Bavarois jusqu'en Thuringe, pendant que d'autres Irlandais commençaient à évangéliser la Frise. Certes, il faut attendre le 8e siècle pour les grandes figures de Saint-Willibrode et Saint-Boniface, mais la pénétration bénédictine, le christianisme et la christianisation de la Germanie, c'est bien aux Irlandais que revient la gloire d'être le semeur de ces régions. Enfin, ayant traversé les Alpes, Saint Colomban fonda en 614 un important monastère en Lombardie, c'est là qu'il mourut en 615. L'œuvre de Saint Colomban était donc immense, ses prolongements le furent également, bien que peu connus, probablement parce que, à l'instigation de Saint Grégoire, mais aussi en raison de sa moindre rudesse, la règle bénédictine fut adoptée de manière générale à partir de 630. Ces prolongements méritent cependant quelques attentions. L'un des ancêtres des Carolingiens était issu des nombreux saints du Brabant, en particulier Sainte Gertrude et Sainte Gudule. Toujours dans leur entourage, nous voyons Saint Modoald, évêque de Trèves, qui convertit son diocèse, Saint Vendrigne à Vernin, etc. Le plus illustre des compagnons de Saint-Ouen était né à Limoges, orfèvre de son état, c'était Saint-Éloi, de 588 à 659, qui s'imposa à la cour de Dagobert par son sérieux et son honnêteté. Il est une de nos gloires nationales et mériterait d'être connu autrement que par une ou deux chansons. Saint-Ouen et Saint-Éloi furent tous deux sacrés évêques le même jour en 640. Saint-Ouen était évêque de Rouen et Saint-Éloi évêque de Soissons. Son domaine s'étendait jusqu'à Anvers. Il fut un grand artisan de l'évangélisation de la Belgique. Parti d'Irlande et se propageant comme un trait de feu, l'élan religieux donné par Saint-Colomban parcourt en une cinquantaine d'années la partie de l'Europe correspondant actuellement à la moitié nord de la France, à la Belgique, une bonne partie de la Hollande, au Luxembourg, à la Rhénanie, au Palatinat, à l'actuel Land de Bade-Württemberg, à la Thuringe, à la Bavière, au nord de la Suisse, et même à la frange ouest de l'Autriche, pour venir mourir en Lombardie. Les bases étaient lancées pour une chrétienté qui serait née dès Charlemagne, si les invasions normandes et arabes ne l'avaient retardée de 2 siècles. Le travail accompli fut quand même de première importance, et sans pour autant renier Saint-Potin, Saint-Irénée, puis Saint-Hilaire et Saint-Martin, contemporains de Saint-Patrick, il faut rendre justice à Saint-Colomban et à ses légions irlandaises d'être les pionniers de l'Europe chrétienne. Je vous souhaite un bon été et je vous souhaite de bien supporter la chaleur grâce à la fraîcheur des bains, que ce soit dans la mer ou dans les lacs. À très bientôt, bon été.